BFM Business présente.
Maintenant, la vraie question, c'est de mesurer l'ampleur du retournement.
On est dans une situation économique qui est plutôt favorable. On n'ose pas le dire, parce que si jamais on dit ça, on passe pour
un... On est d'accord sur rien avec ce que je viens d'entendre.
Ça tombe bien. On veut du débat.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business.
Un peu plus de 19h sur BFM Business, on est en retard comme toujours à cause du... Quel débat.
Faute à nos débatteurs. Dieu,
quel débat pour débuter la semaine, c'était intense comme on dit. Dans l'actualité ce soir, rebonsoir Audrey, pardon.
Rebonsoir Guillaume, rebonsoir à tous.
Audrey Tcherkov avec nous jusqu'à 20h, bien sûr comme tous les jours. Dans l'actualité ce soir, ces annonces de l'alliance Renault-Nissan ce matin à Londres, en terrain neutre. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère? Est-ce que c'est juste un rabibochage ou est-ce que c'est beaucoup moins que cela? On va bien sûr beaucoup vous en parler d'ici 20h.
Et puis pendant ce temps, la réforme des retraites, elle vient d'arriver dans l'hémicycle. On attend de voir bien sûr quelles concessions le gouvernement est prêt à faire et surtout ce qu'en diront les LR.
Ça sera une question centrale. Un mot de nos invités d'ici 20h sur BFM Business. Dans un quart d'heure, c'est l'ancien patron d'Air France et haut fonctionnaire Bernard Attali qui sera avec nous, Audrey.
Et oui, pour son dernier ouvrage qui s'intitule « C'est quand qu'on va où ?», inventaire de chroniques qui, je cite, illustre le désarroi d'une société qui a perdu son cap entre crise financière, guerre et pandémie.
Ce sera avec nous dans un quart d'heure et puis 19h30, c'est le nouveau directeur général d'Orpea, Laurent Guillot, qui sera l'invité d'Eddy Chevaillon. Vous savez que la Caisse des dépôts vient de devenir actionnaire majoritaire d'Orpea. Tout cela plus bien autre chose. On est ensemble jusqu'à 20h. Bien sûr.
C'est parti.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
Good evening business, le journal.
Donc, peut-on parler de vrais nouveaux départs entre Renault et Nissan? Toujours est-il que ce matin, les deux groupes ont fait de grosses annonces du côté de Londres en terrain neutre. Qu'y a-t-il dans ce nouveau deal? Justine Vatogne était sur place pour BFM Business.
On a ressenti lors de cette conférence de presse un profond soulagement. Cela faisait longtemps que nous attendions cela, a expliqué Jean-Dominique Sénard, le président de Renault. Les négociations ont été longues et difficiles. Tout le monde l'a admis ce matin. J'ai plus parlé avec vous qu'avec ma propre famille ces derniers mois, a lancé Makoto Uchida, le directeur général de Nissan, à Luca De Meo. Alors concrètement, les deux entreprises se sont entendues sur un rééquilibrage de leur participation croisée. Chacune va désormais détenir 15% du capital de l'autre avec des droits de vote associés. Une relation d'égalité qui nous donne plus de liberté, ont expliqué Nissan comme Renault, pour investir où nous le souhaitons, investir ensemble ou non avec d'autres partenaires par exemple. Alors s'agissant des projets en commun, eh bien Nissan va investir dans Ampère, la nouvelle entité 100% électrique de Renault. Nissan y participera jusqu'à 15%, mais cela pourrait être moins, ça n'est pas tranché. Mitsubishi va aussi investir dans Ampère, pareil, on ne sait pas à quelle hauteur. Renault et Nissan enfin vont travailler ensemble sur différents marchés en Inde et en Amérique latine par exemple, où ils vont partager des usines, des plateformes, construire ensemble de nouveaux modèles, des projets qui pourraient rapporter des centaines de millions, voire des milliards d'euros par an, a estimé Luca De Meo, le directeur général de Renault.
Voilà pour le gros des annonces. Justine Vassogne à Londres pour BFM Business. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir.
Vous aussi, vous suivez ce dossier depuis un moment aux côtés de Justine Vassogne, bien sûr. Et vous, vous dites ce soir très clairement, au final, je ne vois rien de positif véritablement pour Renault dans cette histoire. C'est ça, Mathieu.
Bah écoutez, en tout cas, ce compromis est très favorable, même extrêmement favorable à Nissan. Renault va baisser sa participation environ un tiers du capital de Nissan, oui, de 43 à 15%. Ensuite, Nissan va récupérer des droits de vote qu'il n'avait pas jusqu'ici dans Renault. Donc, il va pouvoir peser, en tout cas dans les instances dirigeantes de Renault, au même niveau que l'État français qui est également à 15% du capital. Et puis, Renault, en baissant sa part dans Nissan, va finalement accepter de vendre sur plusieurs années 8 milliards d'euros d'actions Nissan, 8 milliards d'euros d'actifs. En contrepartie, il a réussi à récupérer 1 milliard d'euros environ de la poche de Nissan, qui va investir dans sa filiale 100% électrique. C'était le grand projet du patron de Renault, Luca De Meo, mais l'équilibre, franchement, entre 8 milliards d'euros que Renault accepte de lâcher pour ce petit investissement dans Ampère, c'est extrêmement déséquilibré et déséquilibré. Donc oui, cet accord ressemble quand même à un divorce entre Renault et Nissan.
Un difficile divorce, carrément. Enfin, début de divorce, ça que vous dites.
Écoutez, par rapport là d'où on vient, c'est effectivement quand même un divorce où on reste, on va dire, dans le même appartement, mais on ne cohabite plus. calcul très clairement. Donc oui, c'est un compromis qui est extrêmement favorable à Nissan, qui l'attendait depuis maintenant des années. En tout cas, Renault abandonne sa mainmise sur Nissan et Nissan se libère du joug du constructeur français.
Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. Il y a une autre inconnue, c'est jusqu'où va aller Nissan dans la filiale Ampère. Ça aussi, c'est un gros sujet, Audrey.
Oui, absolument. Alors sur la partie électrique, rien n'est joué parce qu'il y a une discorde sur la valorisation de cette filiale Ampère, puisque Renault veut valoriser à 10 milliards d'euros cette filiale, alors que les analystes, eux, partent plutôt sur 7. Nissan est d'accord avec ça. Donc, on ne sait pas encore si Nissan va prendre 15% comme prévu ou pas. Le suspense reste entier.
Eh bien, ça fait partie des questions qu'on posera demain matin, que Good Morning Business posera demain matin à Luca De Meo, le directeur général de Renault, qui sera l'invité exceptionnel de Christophe Jacubizine et Laure Clausier. Demain matin, donc 8h15, Luca De Meo, directeur général de Renault, en direct sur BFM Business. 19h07, le projet de réforme des retraites est donc arrivé à l'Assemblée nationale dans un climat qu'on va qualifier de survolté. Le début des débats a d'ailleurs pris des retards parce que beaucoup de députés étaient hors d'eux quand les ministres sont venus défendre le projet au perchoir. Écoutez Olivier Dussopt, par exemple, qui a eu beaucoup de mal cet après-midi.
Le rapport du corps, il l'écrit noir sur blanc sur les 25 prochaines années. Le système de retraite sera en moyenne déficitaire, quelle que soit la convention, quels que soient les scénarios retenus. Rester inactif, rester passif, c'est la garantie d'accumuler 150 milliards de déficits supplémentaires en 10 ans et de renvoyer cette responsabilité sur les futures générations.
Voilà Olivier Dussopt dans une ambiance déjà survoltée. 20 000 amendements à éplucher en l'espace de 15 jours. C'est impossible, mais ça nous donne un petit peu une idée de ce qui va se passer prochainement.
Bah oui, et alors surtout ce qui se passe maintenant, c'est que la majorité, elle cherche des soutiens, ou ça, évidemment, à droite. Et l'ironie du sort, c'est donc que cette réforme, elle dépend de la droite qui va se prononcer dans les jours qui viennent. Et donc je vous rappelle qu'on est bien loin du fameux en même temps d'Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat qui promettait justement de dépasser le clivage droite-gauche. Donc à suivre.
À suivre effectivement, 15 jours de débat qui s'annoncent haut en couleur. On suivra ça évidemment sur BFM Business. Bruno Le Maire lui donne le ton avant de parler de l'Inflation Reduction Act demain à Washington avec des représentants de l'administration Biden et aux côtés de son homologue allemand Robert Habeck. Nous mettrons en place un IRA européen, c'est ce qu'il a déclaré ce matin, rencontre qui intervient, vous savez, avant un gros conseil européen sur le sujet à Bruxelles, jeudi et vendredi. 19h09, dans l'actualité des entreprises, il y avait une grosse actu autour de Danone, qui a inauguré aujourd'hui à Saclay son centre de recherche et d'innovation. C'est Pauline Tadevin qui nous a dessiné les contours tout à l'heure, écoutez.
Mais sur le plateau de Saclay, tout près de Normal, de Polytechnique, ouais, d'Agritech, etc., il y avait beaucoup de beau monde aujourd'hui pour cette inauguration. Le directeur général, bien sûr, Antoine de Saint-Affrique pour Danone, Isabelle Esser qui est en charge de l'innovation, et aussi une partie du gouvernement, vous en parliez, qui a fait le déplacement. Il y avait la première ministre Elisabeth Borne, le ministre de l'Agriculture, celui de l'Industrie, la ministre en charge de l'Enseignement supérieur. La première ministre, en fait, lit l'ouverture de ce nouveau site à l'objectif de souveraineté alimentaire. Sa présence est une marque de confiance, a-t-elle dit. C'est le choix de l'avenir. Les axes de recherche de Danone, a-t-elle dit, contribuent à forger la France de demain dans le cadre de France 2030. On va continuer à vous soutenir, a dit Elisabeth Borne tout à l'heure.
Et il ressemble à quoi concrètement ce centre alors?
Plus de 2100 mètres carrés, donc sur ce plateau de Saclay. 500 salariés et chercheurs y travaillent. Il y avait un ancien centre de recherche et de développement, quelques centaines de mètres de là à Palaiseau. Mais voilà, là, il voulait vraiment faire quelque chose à la pointe de l'innovation et de la science. La première pierre a été posée avant l'arrivée d'Antoine de Saint Afrique qui se réjouit de revenir en quelque sorte aux fondamentaux de l'entreprise en plaçant l'innovation au centre. Il nous a accordé à BFM Business quelques minutes. Écoutez Antoine de Saint-Affrique.
Alors, l'innovation est un moteur fondamental de la croissance de Danone. Elle s'exprime de plein de manières différentes. Ce sont des nouveaux produits, ce sont des nouvelles manières de faire des produits existants, ce sont des produits médicaux, parce qu'on a aussi des produits médicaux qui permettent d'aller très très loin, ce sont les produits qu'on donnera aux athlètes des Jeux Olympiques. On essaiera de faire en sorte qu'on puisse contribuer à ce que la délégation française gagne des médailles. Donc c'est plein de choses différentes qui vont depuis des produits jusqu'à des process, jusqu'à des manières aussi de faire chanter nos produits d'une manière qui soit durable.
Voilà, Antoine de Saint-Affrique, le patron de Danone. L'idée, vous l'avez compris, c'est de construire l'alimentation de demain. Il y a dans ce centre de recherche et de développement, par exemple, une bibliothèque historique de ferments, plusieurs centaines de types de ferments pour bâtir cette alimentation de demain. Antoine de Saint-Affrique nous a fait une petite visite privée, on pourrait dire aussi, en nous montrant qu'au sein de ce centre, il y a comme une usine reconstituée avec toutes les machines qu'on peut trouver dans les usines sur le territoire français, sauf que les ont sous les yeux et ils peuvent faire en sorte de les améliorer et de faire avancer la recherche. On va continuer à investir, nous a dit le patron de Danone, et ça se reflétera dans nos possibles partenariats, voire dans nos acquisitions. Alors, vous imaginez bien qu'on a posé la question de savoir si on pouvait en aller plus loin, si on pouvait en savoir plus sur ces projets d'acquisition. Bah, rien de plus pour l'instant.
Eh ben, faudra attendre, effectivement. Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business. Deux mots avant d'aller sur les marchés. D'abord, encore un plan social dans la tech. Cette fois, c'est l'américain Dell qui annonce qu'il va supprimer 5% de ses effectifs dans le monde, c'est-à-dire un peu plus de 6600 postes. Le constructeur d'ordinateurs met en avant, bien sûr, le contexte inflationniste et puis, dit-il, la baisse de demande pour les PC d'une manière générale. Et puis Total Energy qui décroche un gros contrat au Danemark pour un énorme projet de stockage de CO2, l'un des plus grands en Europe. Le Français, en fait, a remporté deux permis pour aller explorer 2 km en profondeur de mer du Nord sur plus de 2 000 km². Contrat annoncé donc aujourd'hui, 19h12. On retourne sur les marchés tout de suite. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris, forte baisse pour débuter la semaine ce soir sur l'indice parisien puisqu'on perd 1,3%, 7137 points. Bonsoir Sabrina, on vous retrouve depuis New York. Comment ça se passe chez vous à la mi-séance?
Bonsoir. Et c'est la baisse qui l'emporte également ici sur les marchés américains, un petit peu moins que chez vous. Un repli de 0,16% pour l'indice Dow Jones, 33 972 points. Le S&P 500 cède 0,6%, 4 108 points. Le Nasdaq, lui, perd 0,9%. Des marchés qui ont bien performé depuis le début de l'année. On est sur un gain de 7% sur le S&P 500. Le Nasdaq a enchaîné 5 semaines de progression. On n'avait pas vu ça depuis novembre 2021. On reprend un petit peu son souffle avant de grands rendez-vous. On aura demain Jérôme Powell qui doit s'exprimer. Attention à ce qu'il dira après la publication notamment des chiffres de l'emploi solide de vendredi dernier. Beaucoup de résultats d'entreprise encore à surveiller. On notera Disney qui doit publier ses trimestriels mercredi. Il y aura également Uber, Pepsi et PayPal. PayPal d'ailleurs qui est sur le devant de la scène avec une note de Raymond James qui a baissé sa recommandation sur le titre, citant justement la prudence avant la publication de ses résultats et puis aussi après une belle hausse de 20% du titre PayPal depuis le début de l'année. Enfin, vous en avez parlé, Dell, oui, qui à son tour licencie 5% des effectifs concernés et le titre Dell est actuellement en baisse de 2,7% en attendant les trimestriels de Pinterest ce soir en après-bourse. Le marché donc recule avec une tension sur le 10 ans américain. Le Dow Jones, moins 0,18%. Le Nasdaq, de son côté, perd 0,8%.
Merci beaucoup, Sabrina. On vous suit toute la soirée, évidemment, pour suivre ensemble la fin de cette séance du côté de Wall Street. 19h14, les gilets jaunes, la guerre, le Covid, la crise financière. C'est l'ancien patron d'Air France et haut fonctionnaire Bernard Attali qui est avec nous dans un instant. Il écrit ce bouquin, c'est quand qu'on va où ? C'est écrit sous le coup de l'humeur, mais sans jamais garder l'optimisme pour les prochaines années. Il est avec nous dans un instant pour en parler. À tout de suite.
Good evening business, ils font l'écho.
16h17, notre deuxième invité, c'est Bernard Attali, l'ancien président d'Air France, haut fonctionnaire et donc chef d'entreprise. Bonsoir Bernard.
Bonsoir.
Alors merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes là parce que vous publiez chez Descartes et compagnie ce livre qui s'intitule « C'est quand qu'on va où ?». Alors évidemment, on va parler de cette référence à la chanson de Renaud qui répond à sa fille en fait, qui se pose des questions sur le monde. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu faire, répondre aux grandes questions sur la marche de notre monde ?
Oui, un peu. Je fais partie d'une génération qui a connu des crises multiples, des crises financières, des crises sanitaires et des crises politiques évidemment, mais ce qui caractérise notre temps, me semble-t-il, c'est une addition de crises, c'est ce qu'on appelle maintenant une polycrise, c'est-à-dire une multiplication de crises qui viennent en même temps et qui désorientent évidemment tout le monde. C'est quand qu'on va où ? C'est une très belle chanson de Renaud, plutôt un très joli poème de Renaud. C'est une petite fille qui, sur le chemin de l'école, demande à son père « Mais où est-ce que je vais comme ça ?» Et ça me paraît, à mon sens, très bien traduire l'esprit du temps.
Alors, ce qu'il faut dire aussi sur le timing, c'est que vous n'avez pas attendu la guerre en Ukraine pour commencer à apporter des réponses à ce qui se passe, parce que vous avez commencé à compiler justement ces chroniques en 2019, c'est-à-dire au moment de la crise des Gilets jaunes.
Oui, c'est ça. En fait, j'ai écrit à peu près tous les 15 jours, tous les mois, un papier. D'abord pour préciser ma propre pensée, ensuite pour commenter avec un peu de hauteur des événements qui se sont multipliés au cours de ces 4 ou 5 dernières années. Alors, j'ai écrit beaucoup pour préciser ma pensée et donc sans langue de bois. Et du coup, ça donne un propos assez direct. Oui, je crois.
C'est quand qu'on va où, au demeurant, c'est l'expression d'un profond désarroi. Et vous, vous refusez de tomber dans le pessimisme, dans le...
Je pense que... Non, je ne suis pas ni décliniste, ni pessimiste, mais je pense que évoquer, prévoir l'avenir, réfléchir à l'avenir, ce n'est pas nécessairement le prévoir. Oui. Et au contraire, c'est d'ailleurs, d'une certaine manière, le conjurer. Et comme je fais partie de ceux qui pensent que l'optimisme est un sport de combat, je me bats.
Mais est-ce que ce que vous dites, c'est que finalement, le mal français, c'est cette tendance finalement au renoncement ?
Oui, on a en effet dans ce pays tendance à voir le côté négatif par rapport au côté positif. Les côtés positifs sont très nombreux, mais il faut aborder tous les aspects de ce pays dans ses ombres et dans ses lumières pour essayer d'en tirer le meilleur.
Parce que vous y allez, enfin, tout y passe hein, dans ces chroniques que vous avez compilées. Il y a tous les mots MAUX dont on souffre, désindustrialisation, perte de compétences. La bataille des données, l'intelligence artificielle, la mainmise de l'Asie sur la voiture électrique, l'endettement perpétuel, la déliquescence des institutions, la montée des populismes, le coût exorbitant de la transition énergétique. Et encore la place pour l'optimisme.
Oui, tout à fait. À une condition, c'est de savoir réfléchir à long terme. La caractéristique du temps, c'est l'immédiateté. C'est que tout nous arrive, si vous me le permettez, dans la gueule, toutes les 5 minutes, sans nous donner le temps de réfléchir, sans que nous ayons le temps de prendre de la hauteur. Or, je pense que un navire qui traverse la tempête a plus que jamais besoin d'un cap, d'une vision de long terme. Un navire qui ne connaît pas son port a toutes les chances de ne pas y arriver. Et ce qui me frappe dans notre époque, c'est cette difficulté à prendre de la hauteur, à réfléchir à long terme et à s'y tenir.
Alors vous qui connaissez autant la sphère publique que le secteur privé, est-ce que vous trouvez que cette difficulté à prendre de la hauteur, elle touche autant les deux parties
Oui, tout à fait. Je pense que c'est un travers qui couvre tous les décideurs. Ouais. Et d'ailleurs, si vous me le permettez aussi, tous les médias, puisque vous contribuez, sans le vouloir, tout en faisant votre métier, à privilégier l'urgent à l'important. Et cette tentation de réparer l'immédiat et de moins réfléchir à l'avenir est un des travers de notre temps.
Et en même temps, Bernard Attali, quand on est frappé par une crise, que ce soit une crise sanitaire ou que ce soit la guerre ou que ce soit une crise de l'énergie comme on connaît actuellement, c'est quand même difficile de réussir à avoir un œil dans la longue vue et pas que dans le microscope.
Je pense qu'il faut tenir les deux bouts de la chandelle. Bien sûr qu'il faut réparer le présent. Bien sûr qu'il faut faire face aux crises. Mais si on veut être à la hauteur de nos vraies responsabilités, c'est-à-dire préparer nos enfants, préparer l'avenir de nos enfants, préparer le pays où nos enfants vont vivre, je pense qu'il ne faut pas se contenter de regarder l'immédiat, il faut essayer de réfléchir aux enjeux de demain. Si nous avions réfléchi aux enjeux sanitaires, aux enjeux de notre appareil hospitalier, il y a 10 ans, de manière un peu plus intelligente qu'on ne l'a fait, eh bien, par définition, nous aurions résisté davantage à la pandémie tragique que nous venons de traverser.
La planche de salut, pour vous, c'est quoi ? C'est croire en la France ? C'est croire en l'Europe ?
Nous avons,
d'une manière générale, c'est quoi ?
Je ne pense pas qu'il y ait une planche de salut, il n'y a pas de baguette magique. Mais ce qui me frappe, si vous voulez, c'est l'affaissement de valeurs, de principes auxquels nous avons tous adhéré et qui sont en danger. L'universalisme, la laïcité, la mondialisation d'une certaine manière, l'État, la conception même de l'État, tous ces principes, y compris évidemment les droits de l'homme, nous y avons cru, ma génération y a cru, et ils sont aujourd'hui en danger.
Mais vous y croyez encore ?
J'ai mis en exergue de ce livre une très jolie phrase, hélas un peu triste, de Marc Bloch, qui disait en 1940, je fais partie d'une génération qui a mauvaise conscience. Eh bien, c'est un peu le sentiment que ma génération doit avoir par rapport à toutes les étapes qu'elle a manquées.
Vous parlez de quoi? Vous parlez notamment, j'imagine, du réchauffement climatique et de la bataille pour
notamment,
le climat.
Notamment. Le réchauffement climatique, on a le nez dessus. Il est clair qu'on aurait dû, de toute évidence, y penser et s'y préparer il y a très longtemps. Aujourd'hui, on va être obligé de faire des efforts considérables dans un temps très rapproché, alors que là encore, il était possible, me semble-t-il, de se mettre en position d'y réfléchir très en amont. Quand j'étais responsable de la DATAR, de la délégation à l'aménagement du territoire, je me souviens d'un exercice qui avait été fait par l'institution qui s'appelait les scénarios de l'inacceptable. Mmh. On avait essayé de réfléchir à l'époque à tous les scénarios qui pouvaient défigurer nos paysages, qui pouvaient détricoter nos territoires, si je puis dire, la désertification du massif central, l'urbanisation excessive du littoral, l'hypertrophie de la région parisienne. Et c'est cette réflexion à très long terme qui nous avait permis de mener à l'époque une politique qui, à l'époque, encore une fois, a été relativement cohérente et, je crois, efficace. Évidemment, hélas, aujourd'hui, on a désarmé cette...
Il manque quel élément du moteur aujourd'hui en France pour vous, Bernard Attali? C'est quoi le problème? C'est quoi l'élément déclencheur pour repartir en France? C'est un projet politique ou c'est plus large que
Bien
ça?
Bien sûr, c'est un projet, pas nécessairement que politique, car il s'agit de tous les acteurs. Et il s'agit de préparer l'avenir en y pensant très en amont. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est cette difficulté de nos décideurs, aussi bien politiques que privés, à réfléchir non pas dans l'immédiat, mais à réfléchir à long terme.
Mais ça, c'est regardez, le temps politique, c'est le temps politique qui est ainsi fait.
Regardez les nouvelles technologies. Ce n'est pas que politique, c'est vrai aussi des chefs d'entreprise. Regardez le métaverse. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les nouvelles technologies. Et qui, aujourd'hui, réfléchit aux conséquences sociétales de ces nouvelles technologies? Qui, aujourd'hui, réfléchit à l'éthique qui devrait nous permettre de mieux contrôler les effets négatifs de certaines de ces nouvelles
technologies? Mais alors,
aujourd'hui, cette réflexion à long terme, elle est menée nulle part.
Oui. Non, alors, puisqu'on parle des données et de la data, vous l'avez dit, c'est un monde que vous connaissez bien. Vous donnez dans cet ouvrage aux nouvelles technologies et donc à la data des rôles très importants dans les événements qui se sont passés ces trois dernières années. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment en faire une force ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, on est déjà complètement dépassé par les algorithmes?
Non, je ne pense pas qu'on soit dépassé. Vous savez, ces nouvelles technologies, c'est comme la langue d'Ésope. Ça peut être la meilleure et la pire des choses. Ce qui me paraît important, c'est d'être en situation de contrôler les scénarios négatifs et d'encourager les scénarios positifs.
Contrôler jusqu'à
Mais
quand
cette réflexion, elle n'existe pratiquement nulle part. C'est la responsabilité. Ce devrait être la responsabilité des hommes politiques. Je crains qu'ils ne soient pas aujourd'hui à la hauteur de cet enjeu.
Alors à ce sujet, vous dites que la gauche a mal à ses valeurs.
Bien sûr, la droite aussi, je vous le signale au passage.
Ah, mais ce n'était pas écrit.
Je m'adresse à la gauche parce que, pour tout vous dire, c'est plutôt ma famille.
Ouais. Oui, bon, ça on le savait, mais alors maintenant, dès novembre de 2021, retour de l'inflation, vous le dites hein, dans votre ouvrage, c'est quoi? C'est une vision? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes visionnaire? Est-ce que c'est aussi peut-être plutôt votre connaissance fine du secteur de la finance?
Oui, il se trouve qu'en effet, je suis aujourd'hui dans le monde de la finance et que je conseille un certain nombre de grandes entreprises, à la fois sur le plan financier et sur le plan juridique. Mais c'est vrai, il est vrai qu'à la fin de l'année 21, j'ai entrevu la poussée à venir de l'inflation et surtout ses conséquences, puisque... c'est le titre d'un des chapitres. Nous vivons aujourd'hui dans un étau, l'étau des taux.
Et voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on se dit que l'inflation, elle va s'arrêter cette année, si on continue sur les prévisions?
Personnellement, il me paraît difficile de me lancer dans des prévisions de cette nature. Je ne suis pas un macroéconomiste, mais je pense qu'elle va durer. Je pense qu'elle va durer parce qu'il y a une telle addition de causes dans ce phénomène qui vient notamment des ruptures d'approvisionnement dues à la crise récente, à la fois pandémique et guerrière. Je pense que cette inflation risque de durer.
Bon. Ça ne vous empêche pas globalement de rester optimiste tout au long de votre ouvrage. Voilà, c'est ce qui fait.
Encore une fois, l'optimisme est un sport de combat.
Merci beaucoup Bernard Attali.
Merci.
Merci infiniment, ex-président d'Air France, aux fonctionnaires et chef d'entreprise. Merci beaucoup d'avoir été où? C'est Quand qu'on va où, aux éditions Descartes et compagnie. On l'a eu dans la tête tout l'après-midi, donc écoutez, on va l'écouter quelques instants.
Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où?
c'est quand même un peu galère.
Elle vous tient à cœur cette chanson, on dirait.
Je l'aime beaucoup, oui.
Elle est beaucoup, voilà.
Et bah nous aussi.
Le titre en va-t-on vous.
Merci.
Merci bien, Nathalie, d'être passée nous voir ce soir sur BFM Business, 19h28.
C'est et terminé. Oui, Edwige Chevrillon est là, c'est pas terminé, ça ne fait que commencer.
Bonsoir Edwige.
Nathalie.
Bonsoir Edwige. Votre invité dans un instant,
Edwige. C'est un tout petit peu moins fun, hein, je dois reconnaître. C'est Laurent Guillot, oui. Le patron d'Orpea. Orpea oui. Qui a encore la plus forte baisse aujourd'hui des CRD. Oui. Perdu les deux tiers de sa valeur en quelques jours, quelques séances. Plan de restructuration. Mais évidemment qu'il amine beaucoup d'actionnaires. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il a un plan de refondation, un plan stratégique. Il va tout nous expliquer. Et Dieu sait qu'il a du pain sur la planche.
Et la Caisse des dépôts et consignations, nouvel actionnaire majoritaire.
Absolument, avec un consortium derrière, ouais. Quand même, 50,2%.
Absolument, le directeur général d'Orpea avec Edwige dans un instant. 19h29, on marque une pause. On vous retrouve dans un instant et on se retrouve demain, bien sûr.
Exactement, bonne soirée à tous.
À demain.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On est ensemble, vous le savez, pendant presque une demi-heure. Notre invité ce soir, c'est Laurent Guillot. Il est directeur général d'Orpea. Bonsoir Laurent Guillot.
Bonsoir Madame Chevrillon.
Merci d'être avec nous. Les temps sont durs, très durs pour vous. J'ai envie de dire aussi pour vos actionnaires. On va en parler bien sûr. Et puis peut-être pour les gens aussi qui sont dans les EHPAD. Vous êtes arrivé maintenant il y a quelques mois. C'est un scandale qu'on n'a quasiment jamais connu en France, en tous les cas dans ce secteur-là. Parce qu'Orpea, il faut le rappeler, c'est leader européen des EHPAD. Vous avez, la fin de semaine dernière, présenté un accord qui fait que la Caisse des dépôts, avec deux mutuelles, prennent le contrôle en fait, d'Orpea à hauteur de 50,2%. Mais il y a quand même beaucoup de points d'interrogation. Aujourd'hui, vous êtes la plus forte baisse du SRD. Vous avez perdu les deux tiers de votre valeur en cinq séances. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez essayer de rassurer les petits actionnaires? Il n'y a aucune manière de les rassurer. Parce que la dilution va être telle que finalement, ils n'auront plus rien. Les actionnaires qui ont eu confiance en Orpea.
Oui, les actionnaires qui ont eu confiance en Orpea, ces actionnaires-là, ils ont été volés. Comme l'entreprise a été volée, ils ont été victimes d'une direction générale, la direction générale précédente, comme l'entreprise a été victime, et d'ailleurs nous avons porté plainte, comme les patients et les résidents ont pu, dans certains cas, être victimes. Malheureusement, le plan qui prévoit l'entrée de la Caisse des dépôts et consignations de ces deux mutuelles, MAIF et MACSF, ce plan-là prévoit aussi de transformer de la dette en capital. Et cette transformation de la dette en capital va se traduire par une dilution massive des actionnaires.
Oui, à quasiment plus de 99%. C'est presque du 100%, non?
Presque 99%.
Donc les actionnaires individuels, ils vont tout perdre.
Ils ont déjà tout perdu. Ils ont déjà tout perdu. Je dirais, l'année dernière, ils avaient déjà tout perdu. Ils ne l'avaient pas réalisé et personne ne le savait sur la place de Paris. Mais en fait, la situation financière de l'entreprise, quand je suis arrivé, était déjà catastrophique. Ce qu'on essayait de faire, c'est de sauver l'entreprise. Et ce qu'on a fait la semaine dernière, ce qu'on a annoncé la semaine dernière, c'est le sauvetage de l'entreprise, de ses 72 000 emplois et de ses 255 000 patients et résidents qui passent par nos établissements tous les ans.
La question qu'on peut quand même se poser, alors on va parler évidemment du plan de reconquête que vous avez présenté le 15 novembre dernier. Reconquête, vous me direz, pour faire quoi? De refondation même, plan stratégique que vous avez mis en place, que vous commencez tout juste à mettre en place. Mais est-ce que finalement, lorsque vous voyez cet accord qui n'est pas encore signé, il y a encore beaucoup, beaucoup de points d'interrogation, question un peu basique, mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de déposer le bilan et puis de repartir ensuite?
On ne peut pas, une entreprise comme Orpea ne peut pas déposer le bilan, ne pas courir le risque d'un désastre sanitaire avec des fournisseurs qui ne sont pas payés et du coup des protections, de la nourriture qui n'arrivent pas dans nos établissements. Donc on ne pouvait pas courir ce désastre. Et on a trouvé une solution avec la meilleure solution possible pour nos patients, pour nos résidents, pour nos salariés, avec la Caisse des dépôts et les deux mutuelles qui viennent participer au capital d'Orpea et donner leur confiance dans le plan de refondation.
Est-ce que vous attendiez à des recours éventuellement européens du reste, parce que c'est Bercy qui voulait effectivement éviter à tout prix la faillite, le dépôt de bilan de Orpea. Donc la Caisse des dépôts est intervenue. on ne va pas revenir sur toutes les négociations qui ont été très compliquées et qui sont encore très compliquées. Mais est-ce qu'il y a une... Vous attendez à des recours massifs de certains actionnaires qui ont été expoliés, des petits actionnaires, et puis aussi peut-être de l'Europe, parce qu'elle peut voir des aides publiques apportées à un groupe privé.
Il n'y a pas de cas d'aide publique, puisque la Caisse des dépôts est accompagnée d'opérateurs privés, qui sont des mutuelles, mais qui sont des opérateurs privés, et qui, du coup, tout le monde investissant dans les mêmes conditions... ne caractérise pas une aide publique. D'autre part, oui, il y aura des recours, il y aura du contentieux, comme dans toutes les restructurations financières de cette ampleur, il y en aura, mais je suis très confiant, d'une part, sur le fait que cette restructuration financière aboutisse, et d'autre part, que ces recours ne seront pas une difficulté pour l'entreprise.
Oui. On dit là, les échéances, c'est quoi ? Parce que l'accord de principe a été signé, là, juste avant le week-end. Il devrait être signé en juillet, c'est ça ? On dit qu'il y a une date butoir, le 25 février. Date butoir de quoi ? Que vous aurez peut-être des problèmes de liquidité. Là, on a besoin de quelques explications, Laurent Guillot.
Non, clairement, nous avions en novembre, quand j'ai présenté le plan le 15 novembre, nous avions un sujet de liquidité au mois de février. Donc, vous voyez combien la situation était difficile, combien le risque de faillite de l'entreprise était très important. Nous avons déjà trouvé un accord avec une partie des banques qui nous permettent désormais de passer le mois de juin, presque le mois de juillet, selon la façon dont les opérations se passent d'ici là. Et donc, nous avons le temps de mettre en place ce plan. Après, il y a des dates normales, des échéances normales que nous avions données, qui sont pas vraiment des dates butoirs, mais sur lesquelles il faut avancer très vite. J'ai une grande confiance sur notre capacité à réaliser cette étape financière, qui devrait, si tout se passe bien, se passer à l'été, avec une augmentation de capital à l'été et l'arrivée de facto de la Caisse des dépôts, de la MAIF et de la MACSF à l'été.
Donc, la faillite est évitée. Vous pouvez nous
l'entreprise
dire.
L'entreprise est sauvée.
L'entreprise est sauvée. Ça, c'est très important de le dire. Il n'y a pas de problème de liquidité jusqu'au mois fin juin, voire en juillet, puisque vous avez signé un accord avec vos principales banques créancières. La dette de 9 milliards et demi, elle sera de combien ?
Elle sera d'environ 5 milliards, 6 milliards à l'horizon 2025. Ce qui est important, c'est de voir la baisse et la séquencement dans le temps. Et cette dette-là, à l'horizon 2025, sera tout à fait soutenable. Ça veut dire qu'on aura des ratios net dette sur EBITDA, c'est plus technique, qui seront comparables à ceux de nos collègues dans le secteur. Et donc, on aura remis l'entreprise. On conservera de la dette, mais on aura mis l'entreprise dans la possibilité de payer ce qui restera comme dette.
Une question, parce que vous êtes déjà exprimé, bien sûr, depuis la parution de ce fameux livre Les Fossoyeurs et puis même la réédition. Il y a quand même une question. Il y a aucun contrôle, parce que, d'accord, c'est le leader européen des EHPAD, c'est un groupe privé, mais la sécurité sociale finance une grande partie de vos dépenses. Donc, normalement, on peut imaginer qu'il y avait un contrôle quand même sur les finances d'Orpea, sur la santé d'Orpea. Il y avait des administrateurs, des actionnaires.
Alors, l'administration fait des contrôles locaux dans les établissements, individuellement, pour regarder comment se passent les choses.
Terrible.
Mais il n'y a pas de contrôle au niveau de la holding et il n'y a pas de contrôle financier. Ce qui s'est passé, c'est, trois choses. Hein. D'abord, des malversations financières des dirigeants. D'autre part, des dysfonctionnements de l'entreprise qui n'étaient pas structurés comme un grand groupe. Et troisièmement, et c'est ce qui a mis l'entreprise en difficulté désormais, une expansion internationale et une expansion immobilière complètement sans contrôle, excessive, et qui conduisent à une situation où la dette est bien supérieure aux actifs de l'entreprise, ce qui fait le problème de solvabilité que nous avons aujourd'hui.
Mais en fait, c'était pas leader européen des EHPAD, c'était une grosse foncière avec de l'immobilier et
tout
des malversations aussi sur les conditions d'acquisition. Mais voilà, c'était une société d'immobilière.
Tout à fait, c'était le modèle tel qu'il était, mais il n'était évidemment pas présenté comme ça il y a deux ans, mais le modèle tel qu'il était, c'était une foncière avec une activité, je dirais, annexe pour payer les loyers de soins et d'accompagnement. Le plan stratégique que nous avons présenté le 15 novembre, le plan de refondation, c'est de remettre le cœur, le centre de l'activité sur le soin et l'accompagnement.
Est-ce que vous allez céder Parce que, d'accord, vous avez un développement à l'international, au niveau européen, le plus grand groupe d'EHPAD au niveau européen, et j'ai envie de dire, vendez de l'immobilier.
Dès que nous pourrons, aujourd'hui, notre signature, compte tenu de la situation financière, elle est pas...
Elle vaut rien.
Elle vaut pas grand-chose. Et donc, céder pour relouer, vous voyez qu'il y a quelqu'un, la personne qui l'achète, il va pas prendre le risque. Donc aujourd'hui, nous sommes pas dans cette possibilité, mais dès que nous pourrons, dès que nous aurons les moyens financiers, évidemment, nous allégerons le bilan de l'entreprise en réduisant notre exposition sur l'immobilier pour reconcentrer ces moyens, encore une fois, sur le soin et l'accompagnement. C'est vraiment faire notre métier, ce pourquoi les hommes et les femmes d'Orpea viennent rejoindre le groupe, les 72 000 salariés.
Recentrer sur la France ?
Se recentrer sur les métiers du soin et de l'accompagnement. Et oui, géographiquement, nous allons également nous recentrer, mais pas uniquement sur la France. Nous avons d'autres grands pays comme l'Allemagne, l'Espagne, où nous sommes aussi, les Pays-Bas, où nous sommes aussi très forts, avec des métiers qui ont la taille critique pour assurer le niveau de qualité qui doit être le nôtre.
Donc, vous allez devenir un groupe quasi-public, en fait. Parce qu'il y a la Caisse des dépôts, principal actionnaire, derrière deux mutuelles. Mais c'est la Caisse des dépôts qui pilote.
C'est pas un groupe public, ce n'est pas
public,
une nationalisation.
Ce n'est pas une nationalisation.
La Caisse des dépôts aura moins de 30%. Les autres actionnaires que sont Maïf et MASESF auront 22%. Donc au total, ils auront plus de 50%. Nous avons des valeurs communes et des intérêts communs avec ces mutuelles. Et je pense que c'est un groupement qui a beaucoup d'avantages pour nos patients, nos résidents, évidemment pour nos salariés que ça rassure, pour nos clients, nos fournisseurs que ça rassure, pour nos créanciers que ça rassure. Donc c'était la meilleure solution pour Orpea.
Il y a un changement de gouvernance à la clé ?
Il y a forcément un changement de gouvernance.
Pour l'instant, on va expliquer. Guillaume Pépi est le président, vous êtes le directeur général. Là,
tout à fait.
Oui. Et là, qu'est-ce qui va se passer ?
Le conseil d'administration va en partie être modelé pour tenir compte de l'arrivée de nouveaux actionnaires. La Caisse des dépôts a déjà confirmé que Guillaume Pépi et Laurent Guillot restaient en place.
D'accord. Donc, finalement, ce n'est pas un vrai changement de gouvernance.
Si, puisque le conseil d'administration va changer, va inclure des administrateurs qui viennent de la Caisse des dépôts, qui viennent de Maïf et de MACSF, et il y aura un renouvellement du conseil qui sera assez large.
En fait, pourquoi c'est une forme d'OPA, non ? Qu'a fait la Caisse des dépôts ? L'accord, ça consiste à ça, quand on regarde ?
Non, c'est pas une forme d'OPA.
C'est
pas une forme d'OPA. Le groupement prend le contrôle, mais il n'y a pas un acteur qui prend le contrôle de façon individuelle. Et puis, nous sommes dans une situation particulière. C'est une situation de sauvegarde de l'entreprise qui était menacée de faillite. Et dans ce cas-là, le régime sur les OPA ne s'applique pas toujours.
Laurent Guillot, est-ce que donc plan de refondation, vous l'avez dit, présenté le 15 novembre dernier, plan stratégique, plan de reconquête. On a peu envie de dire, même quand on a regardé, j'imagine que l'avait regardé, Zone interdite chez nos confrères de M6, de reconquête de quoi ? Parce que même si vous n'êtes arrivé, vous n'êtes pas du tout responsable de cette situation, vous êtes arrivé le 1er juillet, donc il y a eu ce grand scandale, et on voit qu'on n'a pas le sentiment que ça a beaucoup changé.
Les choses ont changé. D'abord, le nom est un plan de refondation, pas de reconquête. Ouais. Il ne s'agit pas de développement,
mais
on n'en parle pas.
Votre expression, c'est pour ça.
L'expression que j'utilise, c'est refondation.
Ouais.
Refondation, ce n'est pas reconquête. Il n'y a pas de sujet d'expansion internationale. Au contraire, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons plutôt nous replier sur un plus petit nombre de pays. Et pareil, en termes d'immobilier, nous allons réduire notre détention immobilière pour reconcentrer plus de moyens sur le soin et l'accompagnement. Et je tiens au mot de refondation parce que je pense effectivement que les fondations de l'entreprise ne sont pas complètement assises et que nous devons les reconstruire. J'ai pas de baguette magique non plus. Je peux pas vous dire que tout miraculeusement, le 1er juillet, tout a changé. Malheureusement, j'en suis pas capable. Ce que nous avons fait, en revanche, énormément de choses ont changé. Nous avons donné la possibilité à nos directeurs d'établissement qui sont le maillon clé de
Est-ce que vous avez tous changé ?
Ah non, pas les directeurs d'établissement. Bah,
parce qu'il y a quand même un problème dans les établissements. Il y a un problème financier, mais il y a un problème dans les établissements.
Il y a des sujets dans les établissements,
de nutrition,
la grande majorité.
De soins.
Vous je vais vous répondre. Il n'y a pas de sujet de nutrition. Les moyens sont mis en place, les moyens ont été mis en œuvre pour que il n'y ait pas de restrictions dans les EHPAD Orpea. Les directeurs d'établissement, ils font leur travail du mieux qu'ils peuvent. Mon métier à moi, c'est de leur donner les moyens et de leur donner plus les moyens qu'hier, de faire leur travail le mieux possible. Et c'est un métier difficile.
Alors, qu'est-ce que vous dites plus de moyens? C'est comment? Parce que quand on les écoute, les enquêtes, les témoignages, parce qu'évidemment, pour préparer cette interview, j'ai un peu tout regardé, hein, ils disent, pour l'instant, on n'a pas plus de moyens. Alors vous me direz, on est que le 6 février.
Nous avons embauché depuis le mois de septembre 800 personnes tous les mois, mois après mois. Nous continuons à embaucher au début de cette année. Le taux d'encadrement chez Orpea entre janvier 2022 et aujourd'hui a progressé de 10%. Vous parliez de l'alimentation. Sur l'alimentation, le budget alimentaire du mois de janvier par rapport à celui de 2021 a augmenté de 35%. Donc nous donnons les moyens. Est-ce que c'est suffisant? Tout n'est pas encore mis en place, ce n'est pas dans tous les établissements parce que ça prend du temps, qu'on a des problèmes de recrutement. Les problèmes de recrutement, ils viennent d'un secteur qui est extrêmement tendu, extrêmement difficile pour nous comme les hôpitaux publics, comme pour tout le monde. Nous avons mis énormément de moyens en termes humains pour accélérer ce recrutement. Ce n'est pas facile, mais nous faisons tout ce que nous pouvons.
Est-ce qu'il y a une question de fond? Vous venez du privé, vous êtes un grand chef d'entreprise, Languillot. La question qu'on peut se poser, parce que oui, on voit aussi que bah, du coup ça éclabousse tout le secteur, Corian et d'autres. Est-ce que les EHPAD, comme le disent certains, en fait, c'est tellement important par rapport surtout au vieillissement de la population. Est-ce que ça doit être du ressort du privé? Est-ce que ça ne doit pas être du ressort du public?
Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir toutes les possibilités, je dirais, de façon à regarder lequel est le plus efficace. Et donc, je pense que ça serait intéressant d'avoir une comparaison objectivée de l'efficacité des différents modèles. Et j'ai pas de point de vue là-dessus. Moi, aujourd'hui, oui, je reste à ma place. Je suis en charge d'Orpea. Je m'occupe d'Orpea le matin, le midi et le soir.
Mais est-ce que c'est un modèle qui peut être rentable? Parce qu'on a vu que c'était devenu une grosse caisse immobilière, foncière, donc c'était l'essentiel, enfin il fallait rembourser, c'est pour ça quand même, les frais sont élevés au sein de ces EHPAD, hein, quand même c'est pas fait pour tout le monde, mais est-ce qu'il y a un modèle de rentabilité à votre avis?
Moi, j'en
au jour
suis,
d'aujourd'hui hein,
moi j'en suis convaincu, et les malversations et les dysfonctionnements de certes qui ont été mis par une direction à un moment donné, ne doivent pas nous conduire à complètement jeter le bébé avec l'eau du bain. Je suis convaincu qu'il y a un modèle économique, dès lors, encore une fois, que le travail d'accompagnement et de soins est bien fait. La raison de la chute d'Orpea à la fin, dans ces derniers mois, c'est que le travail de soins, d'accompagnement pour nos patients et non-résidents doit encore s'améliorer, doit s'améliorer toujours.
Aujourd'hui, je crois qu'il y a une loi qui dit que il faut un soignant pour 14 ou 15 malades, enfin ou patients. À votre avis, c'est quoi le bon équilibre? Il faut quoi? C'est un pour trois? C'est quoi?
Il n'y a pas de texte en France sur ce sujet.
Non, mais c'est une moyenne européenne.
Le propos de la défenseur des droits qui s'est exprimé sur le sujet il y a une quinzaine de jours donnait l'objectif de 8 pour 10 quand, selon son estimation, on est entre 6 et 7 sur 10, 6-7 accompagnants pour 10 dans les systèmes français. Orpea est un peu au-dessus de cette moyenne aujourd'hui, et je pense que se fixer un objectif n'est pas une mauvaise idée. Il faut faire attention à ce que ce soit modulé selon le degré d'autonomie de nos résidents, parce que ce n'est pas la même chose quand quelqu'un est complètement autonome et qui vient rejoindre, et puis quelqu'un qui est grabataire et a un problème d'Alzheimer. Donc il faut le moduler complètement. C'est ce qui est prévu avec les ARS, et nous avons cette discussion avec les ARS de façon régulière.
Les agences régionales de santé.
Pardon, oui, les agences régionales de santé. Nous avons ces discussions régulières pour adapter au mieux nos soignants à la situation de chacun de nos établissements. Mais je ne suis pas contre le fait qu'il y ait un peu plus d'indications en la matière par le gouvernement.
Et la rentabilité, elle peut venir de quoi? Parce que finalement, la sécurité sociale, le public, paye déjà énormément de choses. Parce que les soins, enfin, c'est les deux tiers des dépenses.
Un tiers à peu près.
Un tiers,
cette partie-là, qui est une partie du soin,
ouais,
est l'encadrement
et prise en charge donc par la sécurité sociale
et l'encadrement qui l'accompagne est complètement à 100% pris en charge par la sécurité sociale. Donc une augmentation ne remet pas en cause, ou un encadrement plus large qui serait bénéfique pour nos résidents, n'en remet pas en cause la rentabilité de l'entreprise qui se fait uniquement sur la prestation d'hébergement.
Et sur l'immobilier.
Donc sur l'immobilier.
Oui. Donc, la prestation d'hébergement. Mais en même temps, vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez plutôt réduire justement l'immobilier. Donc à ce moment-là, la rentabilité elle sera moins élevée.
Il faut, oui, mais les capitaux engagés, là ça devient vraiment de la finance, les capitaux engagés seront plus faibles puisque...
Vous êtes sur BFM Business,
ouais, bien sûr. Les capitaux engagés seront nettement plus faibles puisque c'est quelque chose qu'on va externaliser. On aura un loyer et donc la profitabilité, oui, en pourcentage du chiffre d'affaires sera plus faible. En retour sur investissement, peut-être pas.
Est-ce que, Laurent Guillaume, vous vous dites... il faudra, donc là vous avez encore des échéances très importantes, il y a ce plan de refondation qui doit s'imposer, qui est en train de s'imposer, hein, c'est ce que vous nous dites. Il faut changer de nom, non? Vous allez changer de nom, je sais pas, à la rentrée en septembre, il faut, pour changer l'image d'Orpea.
À un moment, il faudra peut-être... on en discutera avec nos salariés. Ce qu'on commence à faire aujourd'hui, pour répondre à votre question, ce qu'on commence à faire aujourd'hui, c'est à travailler sur les valeurs de l'entreprise. Je pense que avant de commencer une grande discussion sur la raison d'être, ce que nous avons commencé aussi, il faut commencer à travailler sur les valeurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous fait travailler ensemble, qu'est-ce qui nous rassemble dans cette entreprise. Après, en même temps, nous, dans le même moment, nous travaillons sur c'est quoi la raison d'être d'Orpea, pourquoi nous sommes là. La raison d'être d'Orpea, ce n'est pas d'être une foncière. Ça, c'est très très clair. Mais du coup, travaillons ensemble avec les 72 000 salariés sur la définition de ce qu'on veut être et du projet qu'on veut mener. Et ensuite, évidemment, une fois qu'on a fait ça, on a deux choses qu'on va faire. Réfléchir au nom et en même temps, voir comment on transitionne vers une société à mission. Parce que, compte tenu de notre métier, compte tenu de la spécificité du métier du soin, je pense que passer à une société à mission est une bonne chose.
Oui, et ça montre bien la direction que vous voulez prendre. Merci Laurent Guillot, on avait envie de vous souhaiter bon courage. Laurent Guillot, donc le patron d'Orpea, a été notre invité avec encore quelques échéances très importantes. Et puis, il faut bien dire, pour les actionnaires et actionnaires individuels, c'est quand même un peu la douche froide. Il n'y a pas grand-chose à espérer. Mais voilà, c'est la précédente direction qui vous a volé. Merci beaucoup. Dans un instant, Tech & Co, nous on se retrouve demain, journée des retraites. Et ce sera Patrick Martin, le vice-président du MEDEF, qui sera avec nous.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.